Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aurélie Ponson. Bonjour.
Bonjour.
Aurélie, vous êtes artiste, plasticienne en nature. Comment vous définir ?
Alors moi, je suis artiste plasticienne, art nature et céramiste. Donc, je travaille avec les éléments de la nature, avec elle et pour elle. Voilà. Et j'apprends aux autres à faire de même.
Vous êtes là pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, c'est une exposition de vos sculptures et de céramique qui se passe du côté de chez Cairn, du côté de Cairn, à Barnave, jusqu'à fin septembre, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est au nouveau caveau côté Cairn, à Barnave. Donc voilà, la nouvelle clairette en biodynamie, excellente, qu'on peut déguster quand on vient visiter cette exposition. Voilà, qui s'intitule Bestiaire. Donc, c'est une exposition de céramique que j'ai réalisée à partir et inspirée du bestiaire fantastique du Moyen-Âge et notamment à partir d'une apocalypse du Xe siècle, une apocalypse catalane qui représente les quatre royaumes païens, Babylone, la Perse, etc. Et qui sont représentés par griffons, ours, un dragon, une hydre. Voilà. Et après, c'est tout un tas de petites autres bestioles qui rigolent toujours, en fait, parce que mes céramiques, elles sont là pour faire du bien. Donc, voilà, elles rigolent. Et voilà, qui sont faites en un grès qui vient de Bolène, donc dans la Drôme, et qui est une terre à briques, qui est cuite à très haute température afin de pouvoir être que les sculptures puissent être installées dans le jardin, puisque moi je travaille pour les jardins aussi, dans les jardins ou dans la nature. Voilà. Elles sont cuites donc à 1300 degrés, comme ça elles ne craignent pas le gel, sinon ça craint le gel quand c'est cuit à moins haute température.
Et vous produisez des pièces jusqu'à quelle taille ?
À la taille de la limite de mon four pour le moment. Voilà, donc un four 200 litres. Donc ça peut commencer à être assez gros quand même. Peut-être 80 cm de haut maximum. Et voilà, après j'ai des projets de faire des sculptures réalisées et cuites sur place au moyen du four papier. Voilà, ça c'est en projet. Donc après la hauteur, là, elle est définie par la taille du bois qu'on peut mettre autour et tout ça. Mais ça c'est un projet.
Ça vous arrive de créer des œuvres en kit, par exemple, sur plusieurs pièces et les assembler ensuite pour les rendre plus grandes encore ?
Non. Pas pour le moment. Je l'ai fait. Celles-ci, là, sont toutes faites d'une pièce. Ouais. Après, c'est une possibilité, effectivement. Il faut étudier l'art de l'assemblage, les forces, tout ça. Je ne m'y suis pas encore lancée.
Alors, vous vous inspirez de textes du Moyen-Âge. Quels sont les auteurs et quel est votre intérêt pour ces personnages ou ces... comment pourrait-on dire, ces bestiaires ?
Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, mon intérêt, il est venu de la réflexion que j'avais par rapport aux arts plastiques en général, à savoir que je travaillais avec des matériaux assez dégueux, de l'acrylique, même de la sérigraphie très polluante, ou même travailler la photo, des choses comme ça. Et donc, à chaque fois, à un moment donné, en fait, j'ai plus supporté de faire de l'art en polluant, tout simplement. Et vider mon godet plein de plastique dans l'évier, ça m'a semblé tellement absurde que je me suis, tout naturellement, en fait, je me suis intéressée à ce qui se passait à l'art avant la pétrochimie, en fait. Et qu'avant tout ça, on pouvait aussi. Il y avait encore des œuvres qui perduraient jusqu'à aujourd'hui et qui avaient été faites avant. Donc, même si elles sont restaurées, ça, il y a des manuscrits. Alors, ils sont tenus à l'ombre, hein, bien sûr, mais il y a des manuscrits dont les encres sont encore très vives. Donc, je me suis dit, si c'était fait avant, ça peut se faire aujourd'hui. Alors, à l'époque, il y avait plein. On utilisait aussi des pigments qui étaient très, très dangereux, hein, comme qu'on n'utilise plus, comme l'antimoine, par exemple, ou le plomb, ou enfin, des choses comme ça. Mais il en reste quand même beaucoup, et notamment directement issus des plantes, qui sont sans danger, ni pour nous, ni pour l'environnement. Et qui donne des couleurs absolument fantastiques. On ne dirait pas comme ça, mais on a absolument toutes les couleurs, un nuancier incroyable. Et donc après, je me suis donc plongée dans les récits de Marco Polo. Et là, c'est entrer dans un univers complètement délirant, parce que ces siècles-là, 9e siècle, 10e siècle jusqu'au 12e siècle, c'est la découverte de tous ces royaumes lointains. Il y avait certains moines qui partaient à pied, qui revenaient des années plus tard. Et alors, en fait, ils pouvaient raconter tout ce qu'ils voulaient. Et Marco Polo, par exemple, il dit dans son livre Septentrion, il écrit que là-bas, donc il parle de la Perse, les griffons sont bien plus gros que ceux qu'on peut voir dans nos contrées. Et tout le monde y croit. Et donc les enlumineurs s'en donnent à cœur joie et créent comme ça des. Enfin. Ils inventent et en même temps, ils n'inventent pas. Enfin, c'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose. En fait, ils ont une technique absolument précise. Mais ils sont pas dans la, ils sont dans la représentation. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de symbolique dedans et tout ça. Et donc, on a des animaux qui émergent de tout cet univers-là qui sont incroyables et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'heroic fantasy. Voilà, mais qui sont aussi inspirés de la Grèce antique, etc. quoi. Et ben voilà, c'est tout à fait passionnant. Et les enfants adorent en fait se plonger dans ces univers-là. Donc il y a un atelier comme ça où je leur apprends à faire des aquarelles naturelles, où on fait aussi des peintures végétales et où on se lance dans la création d'une bête fantastique à partir justement de morceaux de bêtes issues des bestiaires du Moyen-Âge. Voilà. Ça, c'est un des ateliers que je fais régulièrement avec les enfants.
Vous avez abordé aussi la représentation, par exemple, occidentale de ces bestiaires, s'il en existe aussi, hein, je crois, comme oui. Le Graouli à Metz.
Oui, après, c'est européen. C'est-à-dire que pour le moment, moi, je suis dans le 10e siècle en Europe, surtout en France. Et en Espagne, en Italie, enfin voilà, tout le bassin méditerranéen surtout. Et après, c'est vrai que je suis en train d'élargir, par contre, mes recherches et, à tout ce qui se passait au Xe siècle dans le monde entier. Et on trouve des choses tout à fait pas semblables, mais qui se rapprochent. Même entre le Cambodge et la Catalogne justement, où voilà, c'est un univers qui est beaucoup moins figé que ce qui va l'être plus tard, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, ou qui est codifié autrement. Mais ouais.
Vos bestiaires ou petits personnages ont l'air d'avoir de voir une sérénité sur leur visage, est-ce que c'est un piège dans la représentation, ça ?
Alors, moi, après, je pars par rapport à la sculpture, c'est-à-dire que je suis une hyper-perfectionniste, donc je passe énormément de temps sur mes pièces, des mois, des fois, ça arrive très souvent. Et donc, comme je passe beaucoup de temps sur mes pièces, je m'interdis aux émotions négatives. Bon, pour moi, parce que comme je vais y revenir souvent, si en fait je fais quelque chose qui va être plein de négativité, bah, ça va je vais me renforcer là-dedans. Or, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour de ce sentiment-là. J'ai plus trop envie d'y être plongée, de me vautrer dedans. Et je préfère créer de la joie. Et je me dis aussi que c'est quand même vachement plus sympa pour les personnes qui reçoivent ces pièces-là après chez elles, que de les croiser, les fasse sourire ou leur amène quelque chose de plus positif, en fait. Voilà. Après, la sérénité. Est-ce que la sérénité est un piège? Bon, je sais pas.
Non, c'est par rapport au bestiaire mythologique. Hein, ah, c'est pas oui. Sans danger.
Ah oui, oui. Ah, oui c'est, ça peut ne pas être sans danger, mais bon, c'est un danger limité, on va dire.
Et justement, ces visages encore, j'y trouve un lourd héritage justement de la représentation dans l'art classique et même antique. Est-ce que vous étudiez beaucoup la représentation du visage dans ces époques-là aussi? Et de les utiliser même. Il y a une sorte, comme si vous l'aviez inné.
Ah. Alors, de les étudier, oui, je les étudie, je les ai étudiés, je continue à les étudier parce que je ne cesse jamais d'étudier. Voilà, parce que ça me passionne, donc du coup forcément, je suis baignée là-dedans. Comme c'est un sujet qui est très, très vaste, heureusement, je suis bien aidée par des auteurs comme Michel Pastoureau, par exemple, qui est historien de la couleur et qui est spécialiste et médiéviste. Et donc, oui, forcément, je croise, comme j'étudie même ces enluminures, tout ça, évidemment, j'en suis imprégnée. Mais à la fois, comment expliquer, je ne sais pas si c'est pas forcément voulu, c'est-à-dire que dans les représentations en sculpture, ce que je fais, je ne crois pas, je ne le prémédite pas, quoi, voilà. Voilà, je ne le prémédite pas. Après, là, en ce moment, pendant mes permanences, là, je m'occupe un petit peu parce que c'est sympa. Et donc, j'ai amené un peu de terre. Et là, je travaille sur un couple de danseurs. Au début, c'était une lutte. Et je l'ai transformé en danse parce que, encore une fois, je ne peux pas travailler des mois sur une lutte. Donc, le sentiment premier, c'est une lutte. Et au fur et à mesure, après, hop, je sors de l'émotion, du faire. Je regarde tout ça et je dis, bon, là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et ça devient autre chose. Voilà. Ces deux personnages-là, il y en a un et une tête un petit peu simiesque, plutôt une tête de singe, et l'autre, là, une espèce de tête de, je sais pas, à moitié vache, à moitié rhinocéros, on sait pas trop, avec des corps humains. Bon, voilà, qui n'a plus grand-chose à voir avec, au final, le Moyen-Âge, là, maintenant. Donc, des fois, je me laisse aller à autre chose aussi.
Vous êtes un peu aussi intéressé à la mythologie grecque et la création du monde aussi par ces titans, ces bestiaires aussi.
Oui, forcément. Mais de toute façon, le bestiaire du Moyen-Âge, il est issu de l'Antiquité, qui lui-même est issu de la préhistoire, etc. Et on remonte comme ça. C'est pour ça que dans les bestiaires du Moyen-Âge, on trouve des chouettes immenses, des choses comme ça, parce qu'elles ont existé pendant l'Antiquité. Il y avait une chouette qui mesurait 1,20 m de haut. Bref, après on sait bien que dans la préhistoire, les animaux étaient plus gros, qu'il y avait des animaux qui se sont éteints, etc. Mais tout ça, en fait, est transformé par l'histoire, par magnifié, voilà, parce que c'était leur fonction, leur manière de faire à l'époque. Donc la mythologie, elle était vécue et elle avait une réalité, et cette réalité s'est transmise, et Voilà. La question du départ, je ne je m'en souviens plus.
Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez aiguisé votre sensibilité par une grande culture de l'art. Mm-hmm. C'est ça?
Oui, ouais.
Donc, vous allez organiser durant août déjà même, à partir du 12 août, des séries d'ateliers.
Oui. Alors déjà, l'atelier Dinature Art sera présent ce mercredi, donc pendant le festival à Révigne. Et nous allons faire des petits du land art sur l'eau avec les enfants. Voilà, des petits radeaux de feuilles, de fleurs, avec une autre association, avec les ateliers de la bidouille. Voilà. Et samedi 12 août, à l'atelier Dinature Art, donc au 508 route de Châtillon, à Saint-Romand. Dans notre atelier, nous organisons une journée sur intitulée Couleur-Couleur, plante à couleur-couleur, pardon, sur les peintures végétales. Donc, c'est un atelier qui est pensé pour les familles, ou pour dire en fait que c'est un atelier adulte-enfant mélangé, où il va falloir partager le temps entre tout ça. Donc on va commencer par une balade botanique dans mon jardin, dans le village, pour voir, identifier, cueillir des plantes qui donnent de la couleur. On va récolter aussi des plantes qui vont servir après un atelier d'empreintes. Et on ramène tout ça à l'atelier. Et là commence le travail d'extraction de la couleur, l'apprentissage. L'idée, c'est de transmettre aux adultes et aux enfants des choses et des savoirs qu'ils vont pouvoir après refaire chez eux. Et permettre aux gens de s'affranchir, de montrer qu'il est vraiment très facile de s'affranchir des couleurs du commerce, en fait. Hein. Même si elles sont à l'eau, elles sont pas forcément sans nocivité pour l'environnement et pour soi-même aussi. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de transmettre ces savoirs-là. Et puis après, s'amuser avec toutes ces couleurs, en faire des paysages, des monstres, des nuanciers, etc. Enfin, vraiment les apprivoiser et pour repartir avec une œuvre particulière.
Alors, ces couleurs que vous proposez de créer, vous les avez acquises vous-même par expérience ou alors on vous les a transmises ?
Non, moi, ça fait 6-7 ans que je travaille particulièrement sur les peintures végétales. Donc, non, moi, je suis complètement autodidacte. Après, j'ai une formation d'école de beaux-arts. J'ai fait 5 ans en école de beaux-arts. Donc voilà, donc après moi ce constat là dont je parlais tout à l'heure que j'avais plus envie de travailler avec des matériaux polluants, bah, je l'ai fait pendant mes études et puis après là ça fait 6 ans, 7 ans que je travaille particulièrement sur les peintures végétales et les peintures naturelles en règle générale. Et donc j'ai acquis ces expériences-là en autodidacte, toute seule en fait.
Non, allez-y.
Non, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc c'était ça l'histoire. C'était parce que je cherchais des recettes. Du coup, j'ai fait des recherches sur la manière de faire au Moyen-Âge et à l'Antiquité et à la Préhistoire. Et donc c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, si vous voulez. Donc c'est là où j'ai appris à faire du vert d'iris, par exemple, ou du noir de l'encre indélébile avec les noix de galle de chêne, par exemple, ou des choses comme ça, qui sont vraiment des recettes très très anciennes. Et après, petit à petit, on essaye des choses, on se renseigne aussi via Internet. Hein, j'avoue que c'est une grande source, c'est une grande ressource en tout cas. Et puis, j'ai lu beaucoup de bouquins, il y a pas mal de monde qui travaille là-dessus maintenant. C'est quelque chose qui se développe et c'est super parce que...
Comment peut-on définir cette matière, justement, ou cette activité qui consiste à créer des couleurs ou à les inventer ?
Oh, on n'invente rien. Je ne crois pas qu'on invente
quoi que ce soit. Inventaire, hein, dans le sens inventorier.
Dans le sens inventaire. C'est... je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est l'art de faire de la couleur. Ici, voilà, moi, je ne fais pas de teinture végétale. Je fais de la peinture végétale. Je ne suis pas du tout teinturière. J'y connais absolument rien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. D'ailleurs, l'histoire de la teinture, enfin, l'histoire de la peinture dépend de l'histoire de la teinture. Les recherches sur la couleur ont été faites d'abord pour la peinture, pour la teinture, pardon. Et de là, après, on a pu extraire la peinture. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé, souvent. Et après, oui.
Et vous-même, vous avez une gamme de combien de couleurs, alors ?
Oh, je sais pas, c'est infini, hein, parce que... On rajoute un peu d'eau, ça fait de plus en plus clair, etc.
Une richesse de tons.
Oui, énormément. Mais on ne se rend pas compte, en fait, là, comme ça, quand on ne sait pas de la vivacité de ces couleurs-là. Par exemple, le bouleau, les feuilles de bouleau, quand elles sont ramassées au printemps, à la bonne période, une fois on en fait une décoction. Si on rajoute un petit peu de poudre d'alun, de pierre d'alun, et bien d'un coup ça devient un jaune vif qui a été beaucoup utilisé et qui est encore beaucoup utilisé en maroquinerie pour teindre les peaux parce que ça dégage une odeur très très agréable et ça fait un jaune vif par exemple qui tient relativement bien. Après, évidemment, si vous mettez toutes ces couleurs-là devant une vitre en plein sud, au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Mais on ne fait pas ça, donc ça
oui,
tient bien.
Je voulais revenir là-dessus par rapport aux enluminures qu'on peut trouver dans des ouvrages anciens, hein, de copistes, qui sont en fait enfermés dans l'obscurité pour pouvoir les conserver. Et si on les ouvre périodiquement et régulièrement, couramment, je veux dire, elles vont perdre de leur teinte.
Oui, c'est pour ça de... Oui et non. Bon, encore une fois, oui, si on les ouvre et qu'on les laisse à la lumière, si on en prend soin, ça se détériore pas tant que ça. Après, bon, là, il y a autre chose, il y a une histoire de conservation auprès des parchemins ou des papiers. Il faut le garder à une bonne hygrométrie, etc. Là, c'est autre chose. C'est de la conservation de pièces d'histoire ou d'archéologie, je sais pas comment on dit, mais... Voilà. Mais oui, si on met pas directement à la lumière, sont comme un tissu, comme n'importe quoi en fait, hein, ça tient, ça peut tenir. Il y a des teintes qui tiennent plus longtemps que d'autres aussi, hein, ça c'est sûr. Mais par exemple là, l'encre de noix de galle dont je vous parlais, elle tient, c'est de l'encre comme de l'encre de Chine en fait, c'est de l'encre indélébile. Ça... Alors quand on la passe, au début elle est grise et après elle fonce en séchant. Voilà. Alors c'est c'est quand on fabrique ces encres là, des fois il suffit de rajouter un ingrédient et hop la couleur à vire et c'est assez magique. C'est assez magique.
Et ces couleurs que vous créez, elles peuvent se mélanger ou alors elles se détériorent?
Non, on peut les mélanger. Après, il faut faire attention parce que dans certaines, on va rajouter de l'alun, dans d'autres, on va rajouter du sulfate de fer si l'on veut foncer ou accentuer les couleurs. Après, si on mélange tout ça, bon, c'est des expériences qu'on peut faire aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très, très précis, c'est-à-dire que j'y vais comme en cuisine. Hein. Il y a des gens en cuisine, il faut qu'ils mesurent au gramme près la quantité de sucre qu'ils mettent. Moi, je rajoute, je goûte, je mélange, je rajoute un autre ingrédient et puis je détermine si ça me va ou si ça ne me va pas. Et je fais autant en art. Faudra pas attendre de moi que je vous donne des recettes au millimètre près, quoi.
D'alchimiste.
Ou alors c'est une alchimie rigolote, quoi. Je me prends pas au sérieux. Voilà.
Alors, donc, des ateliers vont être organisés les 12 et 19 août, le deuxième aux Amanins, c'est ça?
Oui.
Et puis en septembre, vous reprenez aussi d'autres activités.
Voilà. Alors le 19 août aux Amanins, donc à la Roche-sur-Grane, au centre agroécologique Les Amanins, là c'est avec un petit repas compris, le repas du midi concocté par la cuisine des Amanins avec, avec tous leurs les produits de la ferme. Voilà. Et après en septembre, oui, j'ai prévu à la demande de personnes de faire un atelier sur les aquarelles naturelles. Donc là, c'est avec les pigments minéraux, par contre, qu'on va utiliser, qu'on va travailler à partir de pigments minéraux. Donc j'ai pas fixé de date encore. Ça sera, enfin voilà, ce sera fixé donc courant septembre, octobre, par là, selon l'intensité des activités de l'association. Et puis, donc, il y a toujours ce jardin de plantes à couleurs, un jardin de plantes à couleurs à visiter, donc, qui est aussi à l'atelier, donc au 508 route de Châtillon à Saint-Romand, qui est en train de se mettre en place tranquillement. Et donc, voilà, à partir de la rentrée, il y aura des ateliers pour les enfants, donc tous les mercredis matin, de 10h à 11h45. Des ateliers nature, d'art nature. Donc l'idée c'est de passer un maximum de temps dehors, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, et bon bien sûr avec repli dans l'atelier, et puis ben, y a des choses qu'on peut pas faire dehors forcément, mais d'être au maximum en contact avec la nature et l'apprivoiser, voir ce qu'elle nous apporte en termes d'art, voir ce qu'elle nous inspire. Et après, j'ai tout un tas d'ateliers qui vont se décliner au long de l'année, selon l'envie des participants, leur intérêt. Voilà, il n'y a pas de grille vraiment préconstruite. Ce sera selon les envies des enfants. Donc, c'est à partir de 6 ans ou à partir de l'âge de raison. C'est-à-dire que s'il y a des enfants qui sont un peu plus petits que 6 ans, mais qui sont vraiment super motivés, et voilà, ça, c'est possible. Mais, donc, voilà, donc, qui est prévu donc vous proposer du mousse art, mousse graph. C'est comment faire des graffitis en mousse végétale, bien sûr. Voilà. Du land art, bien sûr. De la céramique cuite au four papier. Avec peut-être un totem ou des masques. Bon, évidemment, les peintures végétales, des aquarelles. L'atelier dont je vous parlais tout à l'heure sur le bestiaire fantastique. Et puis, participation à ce potager de couleurs. Aussi, voilà, tout ça sans... Enfin voilà, on verra bien ce que les enfants ont envie de faire à ce moment-là.
Je voulais savoir, par rapport aux études que vous avez dû faire autour de Barneuve, pour les couleurs, est-ce que vous avez la gamme toute complète des couleurs au niveau de ce qu'on peut trouver sur le territoire?
Oui, j'ai une gamme assez complète, moi je trouve. Après, j'avoue, par exemple, je craque sur l'usage du curcuma, par exemple. On en trouve en magasin, ici, en racine. Et c'est génial pour faire des tampons. C'est une couleur tellement vive, sans rien faire, que... Enfin, voilà. Mais sinon, j'utilise que des plantes locales. Oui, on a une gamme vraiment qui va du rose, l'oranger. Enfin, on a oui, toutes les couleurs qu'on peut imaginer.
Le bleu aussi.
Du bleu aussi, oui, oui, bien sûr, oui. Du bleu vert, du bleu... Beaucoup des violets.
Et vous proposez des nuanciers sur le blog que vous avez ?
Est-ce qu'il y a un nuancier? Je crois qu'il y en a un nuancier, mais il n'est pas très, très précis. Il n'est pas... Enfin, c'est juste un bout. dans un... Ouais, voilà, non, il n'est pas en entier.
Et puis, donc, pour ce blog, ça serait bien d'appeler, de rappeler l'adresse URL.
Oui. Eh bien, donc c'est http://. Bon, dynatureart, donc dynatureart, dynatureart, tout attaché, .blogspot.fr.
Là, vous pourrez trouver tous les horaires et toutes les dates d'ateliers qui seront proposées hein, à partir de mi-août.
Oui, tout à fait. On peut tout y trouver. Tout y trouver. Et sinon, vous pouvez nous contacter au 06 66 92 85 34. Voilà.
Eh bien, Aurélie Ponson, merci d'être venue. Et donc, je rappelle aux auditeurs l'exposition jusqu'à fin septembre au caveau Côté-Cairn, exposition de sculptures et de bestiaires du Moyen-Âge.
Merci beaucoup.
Allez, bonne soirée.
Au revoir. Au revoir.
Okay, the bird.